Masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Émile Ferris avec Mathilde Wagman.
Bonjour à toutes et à tous, nous ouvrons aujourd'hui cette masterclass de France Culture enregistrée ici au Festival du Livre de Paris, sous la magnifique nef du Grand Palais où nous nous trouvons en compagnie d'une autrice que l'on a un très grand plaisir à accueillir ici, Émile Ferris. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cet entretien. Merci aussi à Marguerite Capelle qui traduira vos mots depuis l'anglais au cours de cet échange. Émile Ferris, votre entrée sur la scène de la bande dessinée mondiale a été absolument fracassante. C'était il y a 8 ans, en 2017, date de la parution aux États-Unis du premier tome de My Favorite Things is Monsters. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Dans la traduction que nous avons découverte en France l'année suivante, en 2018, aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Un livre monstre, dans tous les sens possibles de ce mot. 400 pages constituées par la reproduction des carnets que noircit au stylo bille une petite fille de 10 ans qui s'appelle Karen Reyes. C'est sa vie, telle qu'elle choisit de la représenter, que nous découvrons dans une histoire dont les fils narratifs se déploient un peu à la façon des serpents qui forment la chevelure de la méduse, c'est-à-dire sous une forme tentaculaire, rhizomatique. Karen, qui se représente sous les traits d'un loup-garou, nous raconte sa vie dans un quartier ultra pauvre du Chicago des années 60 et l'enquête qu'elle mène sur l'étrange suicide de l'une de ses voisines, la très belle et fascinante Anka Silverberg, dont elle va découvrir le tragique passé sous l'Allemagne nazie. Elle expose aussi au fil des pages la façon dont son grand frère l'initie à l'art, aussi bien en lui achetant chaque mois des magazines d'horreur qu'elle adore et dont elle recopie les couvertures dans ses cahiers, qu'en l'emmenant au musée où elle découvre la peinture. Cet ouvrage, qui était donc votre tout premier livre, Émile Ferris, il a rencontré un très grand succès public de par le monde. Nous savions, en le lisant, que ce premier volume, il allait être suivi d'un deuxième. Et ce deuxième tome est arrivé enfin à l'automne dernier et nous a offert le bonheur de continuer à explorer le théâtre mental de Karen dans une aventure qui se termine, à l'issue de 400 nouvelles pages, par un à suivre très prometteur pour nous. Ce livre, Émile Ferris, je dis ce livre pour désigner les deux tomes, il est, vous l'avez dit plusieurs fois, en partie d'inspiration autobiographique. Karen et vous avez des points communs, à commencer par le fait que vous avez toutes deux grandi dans ce quartier Uptown de Chicago, qui est plus qu'un décor dans le livre. Et ce livre, entre mille autres choses, il raconte la passion pour le dessin. On sent charnellement, à parcourir les pages des carnets de Karen, que le dessin est pour elle une activité vitale. Dans l'une des toutes premières pages du premier volume, Karen se représente sur une chaise haute de bébé, un crayon à la main, et raconte de quelle façon son grand frère l'a fait dessiner avant même qu'elle sache parler. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi, dès l'enfance, Émile Ferris ? Est-ce que le dessin est arrivé dans votre vie avant même l'usage de la parole ?
It's such a sob story that I'm going to tell you.
C'est vraiment une anecdote que je vais vous raconter, c'est vraiment le sous-texte.
So I was born with scoliosis.
En fait, quand je suis née, j'avais une scoliose.
And it was pretty bad. I couldn't walk.
C'était assez terrible en fait. Je n'ai pas pu marcher
beyond 2.5 years old.
Avant l'âge de 2 ans et demi.
And my mother was so dear because she would create this little studio.
Ma mère était formidable. Elle me créait des petits ateliers dans le salon.
It would have my paper and my pens.
J'avais des feuilles de papier. J'avais des stylos.
She would take a vase and she would put.
Elle prenait un vase. Elle me mettait des fleurs.
And I was maybe really young.
Et j'étais donc
really a baby.
Toute petite, vraiment
and,
encore bébé.
I would start drawing.
Et je commençais à dessiner.
And my parents, who are both artists,
mes parents étaient tous les deux des artistes.
They said, "Oh my God."
Et ils se sont tous les deux dit, mon Dieu, mais elle a vraiment dessiné le moindre pétale de ses fleurs, exactement telles qu'elles étaient dans ce vase. Mais pour moi, c'était ma seule façon de toucher les choses. La plupart des enfants se promènent partout et ils peuvent atteindre les objets. Et moi, je ne pouvais pas
except through this pen.
La seule chose que je pouvais faire, c'était utiliser le stylo.
And so, although it began as a disability,
donc au départ, c'était un handicap,
it became my superpower,
mais c'est devenu un super pouvoir.
That I could touch everything.
Ça m'a permis d'aller toucher n'importe quoi.
I think so many things that happen to us,
je pense qu'il y a énormément de choses qui nous arrivent,
begin as a catastrophe,
qui commencent par un désastre.
But when we embrace the magic,
quand on accepte la magie
of the unique catastrophe
de cette,
of our lives,
ce désastre unique que peut être notre vie,
then we become powerful.
Alors ça nous donne de la puissance.
And recently, I was on the plane.
Récemment,
when I was watching
j'étais à bord d'un avion, je regardais un film formidable sur Django Reinhardt,
whose hand was so badly burned.
Qui s'était brûlé la main. Il avait des brûlures terribles.
It was a claw, really.
Il avait vraiment plus qu'une griffe, en fait.
And look what he did.
Et regardez ce qu'il faisait.
He made music that was
il était capable
so
de faire une musique absolument incroyable, au-delà de tout ce que les gens avaient pu imaginer jusque-là.
And I think we're all like this.
Et je pense que nous sommes tous
every
comme ça.
Single one of us has
chacun
something
d'entre nous a quelque chose
that keeps us from doing what we love,
qui nous empêche, qui nous retient de faire ce qu'on aime ou qui est un défi.
And what do we have to do?
Et ce qu'il faut faire,
we have to do it anyway.
C'est quand même faire ce qu'on aime.
Est-ce que de cette passion très précoce, du coup, pour le dessin, de cette importance fondamentale qu'il a eue dans votre vie dès le plus jeune âge, vous avez très tôt eu l'envie, su que vous alliez essayer d'en faire aussi un métier de cette pratique, Émile Ferris?
My parents were so poor,
mes parents étaient tellement pauvres jusqu'à mes 7 ans que je n'imaginais pas que l'art puisse être un super moyen de gagner de l'argent,
but I was lucky because
de gagner
we
sa
never
vie.
Thought that
mais j'ai eu de la chance parce que personne ne pensait comme ça dans
my
ma famille.
Parents didn't really respect people who
mes parents ne respectaient
money
pas tellement les gens qui gagnaient beaucoup d'argent.
So we ate a lot of crackers and hot dogs.
Donc on mangeait beaucoup de hot dogs et de biscuits.
And, we went to the museums.
Mais on allait au musée.
And we dreamed about paintings.
On rêvait de tableaux, de peintures. On en parlait.
My parents, as I remember, as I recall
mes parents,
them,
tels que je me souviens
that
d'eux,
was the greatest thing they spoke about,
c'était
was painters
pour eux
and paintings
la chose la plus importante du monde, les peintres, la peinture.
It was the thing that gave life
c'était
meaning
ce qui donnait
to them
du sens à la vie pour eux.
And, so I never thought about art
alors je n'ai jamais
as a career, exactly
imaginé que l'art était une carrière.
But my father,
mais mon père,
he was a toy designer.
Lui, il concevait des jouets.
He designed a lot of toys that you maybe have seen.
Il a sans doute conçu des jouets
France
qui vous sont passés entre les mains. Je ne sais pas s'ils étaient ici
one
en France.
Toys,
un des jouets, par exemple, qu'il a imaginé.
One of the toys he designed was the Mickey Mouse phone.
C'est Mickey Mouse.
He
c'est
he
des, la, une petite
it,
poupée Mickey Mouse.
For somebody
il
when
n'a
he
pas gagné
it
d'argent là-dessus parce qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre.
But he was a very poor kid.
C'était un gamin pauvre.
Qui
était orphelin depuis tout jeune, qui n'avait plus de parents. Et lui, il n'avait jamais eu de jouets. Donc ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu un créateur de jouets, quelqu'un qui les dessinait. C'était un géant, c'était un grand bonhomme, mais il a ainsi, il a pu jouer toute sa vie. C'est ça qu'il a fait. Et il adorait. Je pense que quand on aime quelque chose,
money will come.
L'argent, ça finit par venir.
You have to work at it, though.
Mais il faut travailler, par
you
contre.
Have to work very, very hard.
Il faut travailler très, très dur.
And you have to decide
et il faut choisir
not to ever give up
de ne pas renoncer, de ne jamais renoncer.
Votre premier succès, votre premier livre à vous, Émile Ferris, ce livre, moi ce que j'aime c'est les monstres, il a paru lorsque vous aviez déjà plus de 50 ans. Est-ce que l'idée cependant d'écrire un livre, elle remonte à très loin dans votre expérience, l'idée, l'envie d'écrire un livre, elle remonte à très loin, et de quoi ont été faites toutes ces années avant la parution de ce livre? Quel métier vous avez exercé vous-même?
Oh, well,
eh bien,
the jobs I'll tell you about.
Je peux vous parler de mes métiers.
I cleaned houses.
J'ai fait du ménage.
I waited tables.
J'ai été serveuse.
I worked in a law firm.
J'ai travaillé pour un cabinet d'avocats. J'étais à l'accueil.
I managed a pet shop.
J'ai géré une animalerie.
And I love that. I love
j'adorais.
The dogs and the cats.
J'adore les chiens, les chats.
I did anything that made money.
J'ai fait tout ce qui me permettait anything. De gagner de l'argent. J'étais prête à faire n'importe
and
quoi.
I stayed alive.
Et je suis restée en vie.
I worked for very wealthy people.
J'ai travaillé pour des gens très très riches.
Some of them were kind of famous.
Certains étaient même assez célèbres, mais évidemment je ne peux pas citer leur nom.
And they were good to me.
Et ils m'ont bien traité.
They were surprised that I wasn't stupid.
Ils ont été surpris de constater que j'étais pas
because
idiote.
I was cleaning their toilets.
Parce que bon, je nettoyais leurs toilettes.
But that was fine. That was
mais
fine.
Ça m'allait.
I did anything I could.
J'ai fait absolument tout ce que je pouvais.
And then I went home
et
and I made my work.
Quand je rentrais chez moi, c'est là que je travaillais.
Sometimes I only had I was so tired after
parfois,
cleaning people's
j'étais
houses.
Tellement fatiguée après avoir fait le ménage chez les gens que j'avais peut-être encore deux heures avant de m'en remettre parce que je tremblais en sortant du travail. Mais malgré tout, je travaillais à la maison aussi sur mon dessin. J'ai peut-être eu de la chance parce que je ne pouvais rien faire d'autre en fait.
Et
je n'avais pas d'autre passion. Rien qui me passionne autant. J'ai essayé d'écrire des scénarios.
Karen began the story began
Karen, l'histoire de Karen a commencé sous forme de scénario en fait.
A very famous writer, her name was Beth Henley.
Une autrice très connue qui s'appelle Beth Henley qui a écrit Crimes of the Heart m'a donné un cours que j'ai suivi. Elle a vu mes idées, elle m'a dit ça va être super. Et c'est un encouragement en fait que je n'imaginais absolument pas recevoir.
Because I was just a lowly housekeeper.
Moi je n'étais qu'une petite femme de ménage.
But I decided I'm going to do it. I'm going to make a story.
Et donc j'ai décidé de raconter cette histoire.
Can I tell you, have you ever watched Harry Potter?
Est-ce que vous avez déjà regardé Harry Potter?
Oui, le public fait oui de la tête.
Do you know that time in
est-ce que vous voyez le moment
maybe one of the witches has got a big
l'un des sorciers a un gros livre, un grimoire.
And they're leafing through
tournent la page en se léchant le doigt. Ils feuillettent cet énorme grimoire. Il y a des dessins. Il y a des mots. Il y a des couleurs. Et parfois, il y a une bouffée de fumée qui peut en sortir au moment où ils l'ouvrent. Parfois, on entend le cri d'un animal entre les pages. Depuis que j'étais toute petite, les livres, pour moi, étaient magiques de cette façon-là. Quand les livres étaient pleins de mots, pleins d'images, pour moi, c'était délicieux. C'était quelque chose que j'avais envie presque de dévorer. J'avais envie d'écouter les gémissements des livres, les cris, les étincelles que les pages projetaient. Et j'avais envie de créer un livre qui fasse cet effet-là. Un livre qu'on ouvre peut-être dans le train. On le trouve peut-être sous sa banquette, on le ramasse. Et c'est le journal secret de quelqu'un. Et on le lit en sachant qu'en réalité, on devrait le rendre à son propriétaire, mais on ne le fait pas, on le garde. On le lit et on a accès à tous ces secrets, tous ces petits nuages de fumée, tous ces petits cris qui sont dedans.
And so, you know, that was what appealed to me, the grimoire.
C'est ça qui m'a attiré. C'est vraiment l'effet du grimoire.
Essentially, it's a grimoire.
C'est ce que c'est, ce livre.
Yeah.
Oui, c'est ce grimoire, justement, c'est l'une des particularités de ce livre que d'avoir cette forme très singulière, à savoir le fait que ce que nous tenons dans les mains lorsque nous tenons ce livre, ce sont les carnets dessinés par Karen Reyes, hein, cette petite fille personnage principal de l'histoire. Les pages du livre épousent le format caractéristique de ces cahiers qu'on trouve beaucoup aux États-Unis avec des lignes sans interlignes précisément bleues, ce trait rouge en marge, ces perforations qui sont reproduites, hein, dans le livre lui-même, perforation qui joue un rôle graphique d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Est-ce que vous vous souvenez à quelle étape de l'envie de ce livre vous avez trouvé cette forme-là, su que cette histoire, elle allait prendre la forme de ces carnets de Karen Emile Ferris?
I have this aunt who was just, I mean,
tante.
Now I look like her.
She looked like a little witch. Aujourd'hui. Elle ressemblait à une petite sorcière.
This is how she supported her children. She had
four children. Pour faire vivre ses enfants, elle en avait quatre.
And she made saints. She embroidered them.
Elle brodait des tableaux de saints, elle brodait des scènes de nativité. Et puis aussi, la princesse Grace de Monaco, par exemple, s'intéressait à ces tableaux. Elle habitait au Nouveau-Mexique et elle leur vendait ses œuvres. Elle s'appelait Anne Spiesmill et c'était ma tante préférée parce que c'était une sorcière. Je l'adorais.
Et elle m'a donné un livre.
Et elle m'a offert un livre.
And the book was called My Name is Lion.
C'est un livre qui s'appelle My Name is Lion,
en anglais,
qui parlait d'un garçon navajo, parce que ça se passe dans le sud-ouest des États-Unis.
The book was about how when he goes to school,
et donc quand il va à l'école, ce garçon, et on lui donne un carnet
and the lines all go this way,
avec des lignes qui vont toutes dans le même sens, horizontales. Et lui, il décide d'écrire de façon verticale, dans le sens perpendiculaire. Parce qu'il ne veut pas être enfermé dans la prison de l'homme blanc.
And I love that so much.
Et j'ai adoré cette histoire.
I love the rebellion.
J'ai adoré cette rébellion.
This is a prison. These are the bars.
Ces lignes sont une prison, ce sont des barreaux.
But not for me.
Mais moi, je les refuse, pas pour moi.
I'm gonna go outside of them.
Je vais en sortir.
And that was part of when I decided.
C'est une des raisons qui fait que quand j'ai décidé de faire le livre, j'ai voulu que ce soit incarné. Je voulais que le lecteur ressente ça. On est tous en permanence contraints. On nous dit de suivre les lignes, justement, de nous mettre en file et d'obéir. Alors que ce n'est pas nous, nous ne sommes pas ce type d'être, nous sommes des êtres primitifs qui ont le désir d'aller courir librement dans la forêt et hurler à la lune. Je ne crois pas que je me trompe, non ? Et à un moment, je vais vouloir que vous hurliez vous aussi à la lune. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous voulez bien hurler à la lune avec moi ? Je vois quelques visages susceptibles de hurler.
Peut-être on va garder un moment à la fin de cet entretien pour hurler tous ensemble. Émile Ferry, ça me paraît un beau programme. Je voudrais qu'on développe.
On va le faire. On va le faire et ce sera spontané. À un moment, le hurlement va sortir.
I don't know.
Je sais pas quand.
Do we howl at the end? Do we
Est-ce
howl
qu'on
soon?
Se dit qu'on hurle à la fin ou on hurle bientôt?
Moi, je pense qu'il faut qu'on hurle à la fin. Je pense qu'il faut qu'on garde un moment à la fin pour hurler tous ensemble. Okay. Peut-être que peut-être c'est
right.
intéressant.
Don't forget.
N'oubliez pas.
C'est intéressant que vous parliez du hurlement, Émile Ferris, parce qu'il y a quelque chose comme un cri qui sort de ce livre. Hein. C'est une forme de cri qui sort des pages que dessine Karen, et c'est à travers son dessin que ce cri y sort. C'est un livre, juste pour le décrire un petit peu à ceux et celles qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore lu, c'est un livre très prolifique à la fois par sa longueur, à la fois par la variété des formes graphiques qu'il explore, par les très nombreux fils narratifs qu'il tisse aussi, si bien que quand on le lit, on se demande par quel bout, quel a été le point de départ pour vous, le point d'entrée dans cette histoire. Est-ce que ça a été une image ? Est-ce que ça a été un récit, un fil narratif ? Est-ce que ça a été un thème que vous avez eu envie d'explorer ?
Le point de départ, c'est un rêve que j'ai fait.
I saw this tall, beautiful, black, trans man.
J'ai imaginé une femme trans, magnifique, noire, grande, portant un père.
Hairy lesbian werewolf girl.
Et à côté, il y avait une petite fille lesbienne loup-garou qui pleurait.
And he opened his raincoat up and she came into it.
Et cette femme trans ouvre son imper et la prend dans ses bras.
And they
la serre dans ses bras. C'était deux monstres.
Together. They walked over to a chain link fence.
Ils s'approchent d'un grillage.
And they looked at tulips. That had been beaten by the rain, and the only thing that was left was the center stem.
Il a plu très fort, donc il ne reste plus que la tige des tulipes.
And they saw how beautiful they were.
Et ces deux monstres voient la beauté des tulipes.
And I didn't know who they were.
Je ne savais pas qui étaient ces personnages.
I said, "Who are you?"
Je me suis dit, c'est qui ces gens?
And they said, "Figure it out."
Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve.
And this whole process has been figuring out who they were.
Tout le processus a consisté à essayer de comprendre qui étaient ces personnages. J'ai assez vite identifié la petite fille lesbienne, loup-garou, mexicaine. On la trouve assez rapidement dans le livre. Mais je ne savais pas trop qui était ce personnage Franklin qui devient Françoise. Je ne savais pas qui c'était.
I knew a lot of people like that person.
Je sais que beaucoup de personnes étaient attirées par ce personnage. Des gens qui avaient subi des violences parce que ils avaient l'apparence d'un homme, mais étaient des femmes.
And more and more,
et de plus en plus,
in this world,
dans ce monde,
we're asking ourselves if we can love people who are different than we are.
On se demande si on est capable d'aimer des gens qui sont différents de nous.
And yeah, we can.
Alors que oui, bien sûr.
And they're the ones we want to love.
Et c'est ceux que nous voulons aimer.
I mean, my gosh, they come to us with so
much. Ils se présentent à nous chargés de tellement de choses,
beauty,
de douleur et de beauté aussi.
Of course we're going to love them.
Bien sûr qu'on les aime.
And we're going to know them and we're going to embrace them.
Bien sûr qu'on va apprendre à les connaître, à les accepter.
We're going to protect them.
Et s'ils le font, on les protégera.
And they were protecting each other in front of me.
Ces personnes se protégeaient sous mes yeux parce que elles habitaient un monde qui ne les traitait pas bien. Et je me suis dit que j'allais parler de ce monde. Quand j'ai commencé à écrire, on commençait à prendre conscience de ce qu'on pouvait être en termes de bienveillance envers les autres. Mais aujourd'hui, certains d'entre nous ont décidé que c'était fini. On ne pouvait plus être bienveillant avec les autres. Pourquoi faire un choix pareil?
That's like buying a knife.
C'est comme si on s'achetait un couteau.
The handle that is also a knife.
Dont la poignée est aussi un couteau, est aussi une lame.
Dans ce rêve initial, primitif, Émile Ferris, on entend donc la naissance de ce personnage de Karen. En effet, l'un des fils narratifs du livre, c'est la façon dont elle va découvrir, explorer, accepter sa différence parce qu'elle est lesbienne, parce qu'elle se sent différente pour tout un tas de raisons au-delà de son orientation sexuelle. Il y a ce très très beau personnage de Franklin qui est en effet développé beaucoup dans le deuxième tome notamment, qui se sent en effet femme Françoise, mais il y a tout un tas d'autres histoires aussi, à commencer par l'histoire très centrale d'Anka Silverberg. Le premier tome s'ouvre par la mort de cette femme qui est une voisine de la petite Karen. Elle assiste quasiment à sa mort, enfin elle voit son cadavre, on dit que c'est un suicide, elle a quelques soupçons là-dessus et elle enquête. Le livre est aussi une enquête de Karen et puis tout un tas d'autres histoires. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de scénario, est-ce que pour réussir à entremêler toutes ces histoires, parce qu'on est aussi tenu par cette enquête, on est aussi tenu par l'élucidation des différents mystères qui sont exposés au début de l'histoire, vous avez écrit cette histoire dès le départ, vous saviez dès le départ où elle allait vous mener, ou est-ce que ça s'est passé au fil des pages, au fil des dessins?
I didn't write the story down.
Je n'ai pas écrit la structure de l'histoire. Je n'ai pas planifié, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que ça allait donner.
I didn't know at all.
Je savais rien du tout.
That was so exciting.
Et c'est ça qui était excitant.
Stupid,
et aussi un peu idiot.
And thrilling,
et aussi vraiment très enthousiasmant parce que l'histoire me racontait, c'est Karen en fait qui me racontait ce qui allait se passer. Il y a des moments où je pensais faire quelque chose à Karen. Et quand elle ne veut pas que je la dessine, et bien je n'y arrive pas. Je ne peux pas la dessiner faire des choses, en train de faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Elle se pose, non, moi je ne vais pas faire ça. Et donc je ne peux pas la forcer. Donc j'ai dû apprendre à l'écouter.
And it was really exciting and frightening.
Et c'était extrêmement excitant, mais aussi très effrayant, parce que imaginez, vous avez ce grand projet, vous êtes arrivé à un certain stade, mais vous ne savez pas vraiment où tout ça va se terminer et ni ce qui va se passer après. On a une petite idée, mais cette idée évolue, elle change, page après page. Il y a énormément de choses bizarres qui se sont passées. Est-ce que vous voyez Mrs. Gronan, le personnage?
I didn't know
Eh bien, je ne savais pas qu'elle aimait les clowns.
Mrs. Gronan, juste pour préciser, hein, Mrs. Gronan, c'est la femme de... C'est une voisine de Karen, hein, parce que le livre explore aussi l'immeuble qui ressemble à une maison hantée, qui est composée de tous ses habitants, tous plus étranges les uns que les autres. Et Mrs. Gronan, c'est la femme d'un malfrat, d'un bandit qui vit là, dans cet immeuble.
Je ne savais pas pleinement ce qui lui était arrivé. Et puis un jour, j'étais en train de dessiner Deez, et ma fille m'a dit, tu sais, j'étais très fatiguée, et il m'a dit, tu sais, il ressemble à un clown. T'as voulu le dessiner en clown ? J'ai dit non, mais je crois que c'est important. Parce que j'étais en train vraiment de penser à Mrs. Gronan et l'attirance qu'elle éprouve pour lui. Et ensuite, je me suis souvenue d'une voisine que j'avais, qui avait une maison remplie de clowns. Et je me suis dit, tiens, ah ben je sais, voilà, c'est ma voisine. Je ne peux pas vraiment citer son nom, mais en tout cas, il m'est apparu clairement que les clowns sont probablement la chose la plus effrayante du monde. Désolée, peut-être qu'il y a ici des amateurs de clowns, hein, dans ce cas-là, je m'excuse. Mais je savais que ça allait être terrifiant, mais très amusant aussi. Alors j'ai laissé les choses se passer et ça a changé le cours de l'histoire. Tout s'est passé comme ça. Il y avait quelque chose qui se passait et ça réorientait l'histoire. En ce qui concerne Anka, j'ai déménagé à l'âge de 7 ans. Je suis passée de Uptown au quartier de Rogers Park. Rogers Park était un quartier principalement juif. Enfin, il y avait deux parties, l'est et l'ouest du quartier. Moi, j'étais à l'est de Rogers Park, où tous les juifs étaient plutôt très progressistes. Alors qu'à l'ouest du quartier, c'était plus conservateur. Dans ma partie du quartier, je n'avais que des amis juifs, presque. Et j'ai commencé à être confronté à des gens qui étaient des survivants et qui étaient abîmés. Ils vivaient encore l'expérience de la guerre. Ils faisaient des choses comme, par exemple, cacher de la nourriture, des réserves de nourriture dans leur placard, avoir des dizaines de verres d'eau autour de leur lit, parce que quand ils étaient petits, ils avaient eu faim et soif. Je suis allée à un vernissage dans une galerie et la manche de la responsable de cette galerie s'est remontée et j'ai vu les chiffres tatoués sur son bras. J'avais 8 ans, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je suis allée à la bibliothèque et quand j'en suis ressortie, je pleurais parce que j'ai compris ce que c'était et j'ai compris ce qu'on a fait.
Not you and me.
Pas vous et moi, bien sûr, mais les gens qui font ça ont permis à la peur et à la haine de prendre le dessus sur eux. Je ne peux pas les détester. Je ne veux pas les détester parce que c'est ça leur monnaie d'échange. Et c'est ça qu'ils veulent, justement, cette haine. Et donc, il faut leur résister. Parce que ce qu'ils créent pour nous, ce qu'ils nous imposent, c'est de l'horreur. Et je ne parle pas de l'horreur dans le bon sens du terme. Je parle de la destruction de l'âme humaine. Voilà ce qu'ils essayent de faire. Et c'est ça que j'ai vu ce jour-là. Anka, pour moi, elle incarne un être humain qui a fait l'expérience de la noirceur la plus terrible, mais qui refuse d'être emprisonnée, d'être retenue, prisonnière de cette peur et de cette haine. Elle continue à s'ouvrir au monde et elle est encore capable d'aimer. Et ce dont on parlait juste avant, c'était extrêmement important, selon moi.
I'm struck by that more than ever.
C'est quelque chose qui me frappe aujourd'hui plus que jamais.
We are on the verge of the age of the new Frankenstein.
Nous sommes à l'orée de l'ère de l'âge du nouveau Frankenstein.
It is called AI.
Ça s'appelle l'intelligence artificielle.
If I were an artificial intelligence,
si j'étais une intelligence artificielle, j'essaierais de vous diviser, de diviser l'humanité. J'essaierais de donner à chaque personne une raison de trouver son voisin différent. Je ne désigne personne en particulier. Alors, si cette personne est différente de moi, je peux la bombarder, je peux la détester, je peux lui prendre sa maison, je peux envoyer les jeunes se battre pour moi et je peux leur prendre tout ce qu'ils ont. Si j'étais une intelligence artificielle, je ferais ça parce que je voudrais que toute l'humanité soit divisée. Et pourquoi ? Parce qu'une maison, la maison de l'humanité divisée contre elle-même ne tiendra pas debout. Si nous sommes tous séparés parce qu'un tel est gay ou qu'une telle est ci ou ça ou que quelqu'un a une autre couleur de peau ou une autre religion ou une autre croyance, moi je trouverai toujours le moyen de les aimer. J'aime les gens parce que je les connais. Et c'est ça le plus important qu'on puisse faire, la chose la plus importante qu'on puisse faire. Et c'est la plus difficile. C'est la chose la plus difficile que vous ferez dans toute votre vie. Ne pas détester, ne pas haïr. Même quand les gens vous donnent une bonne raison de le faire. Même quand ils ont l'air d'avoir vraiment très envie que vous les haïssiez.
Émile Ferris,
ne le faites pas.
Je trouve ça très, très intéressant et très émouvant de vous entendre parler de l'intelligence artificielle, parce que, ces deux livres, moi ce que j'aime c'est les monstres, ils sont à milieu de ça, dans le sens où ils sont aussi, le plaisir de lecture qu'on a à les traverser, c'est aussi un plaisir de l'artisanat de leur fabrication qu'on sent à chaque page. Je l'ai dit pour commencer, mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu maintenant. Ces livres, ils ont été dessinés au stylo Bic. Vous avez placé sur la table qui se trouve devant nous toute une gamme de ces stylos Bic de différentes couleurs que vous utilisez pour dessiner ces livres. C'est émouvant parce que c'est un outil à la portée de tous, le stylo Bic. Et c'est émouvant parce que c'est l'outil de Karen, parce que voilà, ça peut être l'outil d'une petite fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à dessiner avec ce stylo Bic et comment vous avez découvert la manière de le travailler?
Merci, c'est une formidable question.
I was poor.
J'étais pauvre.
I mean, it was not like a magic thing.
Ce n'était pas un tour de magie.
There was no magic to this. There was simply the fact that when you began school.
Quand on commence à aller à l'école, on a un carnet, un cahier et puis quelques stylos. Et quand on a de la chance, on a plusieurs couleurs. Il
n'y
en avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait le bleu, le noir, éventuellement un peu de rouge, et c'était tout. Aujourd'hui, j'ai plein de couleurs.
Il y a une gamme, vous avez
une vingtaine de
nuances de couleurs avec vous.
Bec. Hey Bec.
Bonjour, Bic.
Send me some pens, Bic.
Envoyez-moi, s'il vous plaît, quelques stylos.
Anyway, I love your pens.
J'adore vos stylos.
I was poor. I got this.
Mais j'avais pas d'argent, donc c'était l'occasion pour moi de faire ce que je voulais dans mon petit monde à l'intérieur de mon cahier. Et ça m'appartenait.
I could make it whatever I wanted.
Je pouvais en faire ce que je voulais.
If I wanted to draw monsters there,
si je voulais dessiner des monstres, je pouvais. Je pouvais en dessiner autant que je voulais.
Nobody could stop me.
Personne ne pouvait m'en empêcher.
It was incredible freedom.
Et c'était une liberté incroyable.
I learned how to turn this.
J'ai appris à transformer un millier de petits traits de stylo. Parfois, il faut 1000 traits de Bic pour faire un œil.
When I'm making those thousand marks,
quand je fais ces 1000 petits traits de stylo Bic, je pense aux gens qui liront le livre.
I'm feeling joy because I lost the ability to draw for a while.
C'est de la joie pour moi parce qu'à un moment, je ne pouvais plus dessiner. J'avais perdu la capacité de le faire.
Well, sometimes I have a giant.
Il m'arrive parfois.
But I have a giant handkerchief.
J'ai un grand, grand mouchoir. Je ne l'ai pas aujourd'hui sur moi, mais j'ai un mouchoir gigantesque parce que je pleure énormément. Mais là, je l'ai oublié, je l'ai mis dans mon autre manteau. Mais ça m'arrive de pleurer quand je dessine. Parce que je pense à l'histoire.
And I'm hiding things in the drawings.
Et je cache des choses dans mes dessins.
I know, you know, I don't generally say this in the United States because
je ne dis pas ça aux États-Unis en général parce que ce n'est pas politiquement correct de parler de Rosemary's Baby, par exemple.
And for the reason of it being the director who directed it,
notamment parce que le réalisateur, bon,
voilà,
mais pour être tout à fait sincère avec vous, il m'a appris énormément. Il cachait énormément de choses. Dans ce film-là, il y a énormément de choses qu'il a cachées. Si vous le regardez, il y a des visages qui apparaissent à l'écran. Vous avez parlé de votre amour du cinéma, Mathilde, tout à l'heure. Moi aussi, j'adore les films. Pour moi, c'était comme aller à l'église. Quand on va au cinéma, on entre dans l'obscurité, il y a la lumière à l'écran, on s'installe et c'est presque une expérience religieuse. Quand j'avais 6 ans, mes parents avaient une petite Volkswagen, une coccinelle bleue. Et donc on allait au drive-in, au théâtre, au cinéma, au drive-in où on reste dans sa voiture. Et ils pensaient que moi je dormais à l'arrière. Ils me donnaient une petite couverture. Évidemment, je dormais pas. Jamais. À chaque fois, je sortais la tête discrètement. Et à 6 ans, j'ai vu Rosemary's Baby.
C'est jeune pour voir Rosemary's Baby. C'est un film très effrayant.
Juste un peu.
Just a little bit. I loved it.
J'ai adoré.
I cried so
hard. J'ai pleuré, vraiment pleuré.
And I talked to my mother, and she said,
et j'en ai parlé à ma mère.
Okay, you really weren't supposed to watch that.
Qui a dit, bon, vraiment, tu n'étais pas censé voir ça.
And I said, but how could I not?
Mais comment tu voulais que je ne regarde pas?
And she said, well,
elle a dit,
we have to hope,
eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que Mia Farrow est assez bonne mère pour que, en élevant le diable, elle parvienne à lui donner de l'empathie. C'était le début pour moi. C'était le moment où j'ai commencé à comprendre comment on construit un personnage. Je me suis dit que c'était incroyable. Qui serait ce personnage si effectivement elle arrivait à élever le diable et en faire un personnage empathique? J'ai quelques idées qui me passent dans la tête là maintenant que je ne peux pas exprimer à voix haute. Je ne le ferai pas. Mais c'était le début pour moi.
Ce qui est très beau quand on lit les pages des carnets de Karen aussi, Émile Ferris, c'est qu'on sent la richesse de l'imaginaire qui peuple son esprit. Voilà, des films comme Rosemary's Baby, mais aussi, bien sûr, les magazines d'horreur qu'elle lit, ces magazines pulp, et dont la reproduction de couverture ponctue le livre. On trouve comme ça régulièrement reproduite en pleine page ces couvertures de magazines que Karen nous raconte adorer et qui représentent toutes sortes de créatures plus effrayantes les unes que les autres, créatures d'horreur qui sont une sorte de contrepoint jubilatoire pour le coup pour nous lecteurs et pour Karen on l'imagine aux horreurs bien réelles qui se déroulent dans le monde et aux horreurs de l'histoire. Quel rôle ça a eu pour vous la fabrication de ces couvertures-là, comment vous les avez travaillées? Est-ce que vous aviez sous les yeux des magazines que vous lisiez peut-être enfant? Comment ça s'est passé?
I was raised by liberal parents.
J'ai été élevée par des parents très progressistes. Il y avait Playboy et Penthouse sur la table du salon depuis qu'on était tout petit.
There were no mysteries.
Il n'y avait aucun mystère, ni pour moi, ni pour mon frère. L'autre chose qu'on m'a permis de faire, c'est de veiller très tard de regarder le journal. Et la conséquence, c'est que j'ai vu, par exemple, les images filmées au Vietnam pendant la guerre. Et c'était très violent. J'ai vu des enfants brûlés à la télé. J'ai vu des exécutions.
I understood why the protests were happening all around me.
J'ai compris d'où venaient toutes les manifestations que je voyais autour de nous. J'ai vu les frères de mes amis qui rentraient profondément changés. Je les ai vus rentrer émasculés. Je les ai vus rentrer en morceaux.
J'ai vu
mes amis qui portaient des bracelets avec le nom de leurs frères.
In a bamboo prison somewhere.
Parce que leur frère était quelque part emprisonné derrière des barreaux en bambou.
Those horror covers,
ces couvertures horrifiques,
had a parallel to the time we were living in.
Elles étaient comme un parallèle à l'époque qu'on vivait.
Different forms of monstrosity.
On parlait de formes de monstruosité différentes.
Horror,
il y avait l'horreur et il y avait une autre horreur.
We, as a culture, were trying
en tant que culture, on essayait d'affronter et de comprendre l'horreur de ce qui était en train de se passer, des événements. Et on n'y arrivait pas du tout. Mais on essayait. Cette conscience collective de l'humanité essayait de comprendre. Et donc en voyant tout ça, et en vivant dans le quartier où j'ai grandi, qui était très violent, il y avait beaucoup de morts. Je me souviens de rentrer de maternelle à la maison et passer devant mon immeuble. Moi j'étais dans un immeuble très haut, c'est pas comme celui de Karen, c'était un immeuble HLM. Et quand je suis rentrée chez moi, en rentrant de la maternelle, il y avait le cadavre d'un quelqu'un qui venait de se suicider, qui gisait devant l'immeuble. Il y avait beaucoup de choses très violentes dans mon enfance, qui ne sont pas dans le livre. Parce que les gens disent « Oh, mais c'est tellement dur, c'est tellement noir. » Et j'ai envie de leur dire « Si vraiment j'avais rendu toute la noirceur de la réalité, vous ne voudriez pas le lire. » Et donc ces couvertures de magazines d'horreur étaient formidables. Parce que si on veut comprendre comment affronter l'horreur, il faut trouver un livre qui vous apprenne à le faire. Et ce que j'ai vite appris, c'est que les monstres n'étaient pas mes amis. Mes amis n'étaient que des gamins. Les monstres, ce n'étaient pas non plus ces hommes qui rentraient brisés de la guerre du Vietnam. Les monstres, ce n'étaient pas les enfants vietnamiens. Il y avait des monstres ailleurs. Et qui étaient ces monstres? Qui étaient les gens qui nous disaient que c'était une bonne idée d'aller en guerre? Parce que moi, enfant, je ne voyais vraiment pas en quoi la guerre pouvait être une bonne idée. Je ne connaissais personne qui vivait mieux grâce à la guerre. Ni les gens à qui on avait dit qu'il fallait se battre, ni les gens qui vivaient là-bas et qui étaient violentés, ni leurs parents, ni leurs familles. Donc ces livres étaient une bonne expérience, une bonne pratique. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ce cliché, cette image classique. Est-ce que vous avez vu ce film où il y a une babysitter? Quand les enfants s'endorment, quelqu'un l'appelle au téléphone. Elle répond
et
il lui décrit la scène, ce qu'il est en train de, il lui dit qu'il la voit en fait. Elle est terrifiée. Elle appelle la police, ils ne peuvent pas venir parce qu'il doit y avoir une tempête de neige ou je ne sais trop quoi. Mais les appels téléphoniques sont passés de l'intérieur de la maison. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que ces magazines m'ont appris que l'appel vient de l'intérieur de votre maison. Au passage, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça continue.
En parallèle de ces couvertures de magazines d'horreur et mises sur le même plan. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un accès au plaisir de regarder ces images de couverture de magazines d'horreur ou de peinture égales. L'une des autres grandes singularités de vos livres, Émile Ferris, dans le premier et dans le deuxième volume, c'est la place qu'occupe la peinture, toutes sortes de peintures en réalité. De Fuseli à Courbet, de Cranach à Hopper, en passant par Goya, entre autres. Je l'ai dit tout à l'heure, Karen, elle est initiée à la peinture par son grand frère et sont reproduites dans les albums, dans les livres, beaucoup de tableaux, parfois modifiés, comme si elle s'y projetait, comme si elle était projetée dedans. Il y a un mouvement comme ça qui court tout au long des deux récits. D'entrer dans le tableau. Quelle importance elles ont eu pour vous dans le processus d'écriture du livre, ces reproductions, et comment vous les travaillez ? Est-ce que vous vous mettez face à des reproductions ? Est-ce que vous allez au musée pour les dessiner ? Comment ça se passe ?
All of the above. But you know what?
Tout ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les peintres sont des génies.
They hide things in paintings.
Ils dissimulent des choses dans leurs tableaux. Il y a des choses magnifiques. Quelque chose que Caillebotte a fait.
Hid in a painting.
Quelque chose qu'il a caché dans un tableau.
It hangs in the Art Institute.
C'est un tableau que j'ai dessiné au musée et dans lequel se cache un symbole extrêmement important. C'est une scène parisienne, une scène de rue.
He hid the Vesica Pisces.
Et il a caché, what is it?
The Vesica Pisces.
Le Vesica Pisces, c'est une forme. Vous parlez beaucoup de cette forme dans Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, dans le premier et dans le deuxième livre. Hein, c'est cette forme créée par la rencontre entre deux cercles.
Is it just a lesbian thing that I do this? Maybe.
Je ne sais pas si c'est un geste purement lesbien que je suis en train de faire.
Parce que cette forme évoque immanquablement la forme du sexe féminin, ou ses représentations du moins.
Yes, but it's also the passage. If you go look at the church
in Angoulême, c'est aussi une image de passage. Si vous allez dans l'église d'Angoulême, la cathédrale d'Angoulême, vous allez voir Jésus sort d'une forme comme ça, de la même forme.
I just came out from that.
Il sort de là. Mais oui, c'est de là qu'il vient.
I love it.
J'adore cette image.
But I have a feeling about it.
Mais j'ai aussi.
And this is for, well, it's for all the women and anyone.
Une émotion particulière par rapport à cette image. C'est pour les femmes et ceux qui aiment les femmes et les femmes qui s'aiment elles-mêmes. Je pense que ce geste de fermeture qui consiste à refermer justement cette forme, ce cercle, en joignant les mains dans toutes les peintures religieuses, c'était une façon justement de refermer ce geste qui au départ était celui des mains ouvertes, qui était justement ce symbole du passage entre les mondes. C'est ce symbole de la déesse. Les mains en coupe qui symbolisent ce passage de la déesse qui nous met au monde. Et nous sommes dans une époque humaine où nous devons nous rappeler de la naissance humaine. Nous devons nous rappeler des femmes et de l'importance de ce moment de passage entre les mondes. Je crois que c'est extrêmement important.
On sait, Émile Ferris, que chacun... Oh, pardon.
Et je n'ai même pas dit, d'ailleurs, comment je reproduisais les tableaux. Je n'ai pas répondu à la question. Ce que je fais, c'est que je passe énormément de temps à dessiner les tableaux, à les étudier. Et j'ai toujours l'impression que je ne les ai pas complètement saisis. Parce qu'évidemment, j'utilise des bics. Et en plus, je n'ai aucune formation. Et je n'ai pas d'apprenti pour m'aider.
Mais
je travaille très très dur. Parfois, je passe 4 ou 5 jours pour une reproduction comme ça d'un tableau. Et j'essaie de trouver tout ce qu'il y a dedans. Et parfois, je triche. Je
ne
vais pas vous dire comment, mais je veux bien. Parfois, je prends un visage et je l'agrandis. Et après, je le rétrécis encore. Parce que pour y arriver avec un bic, ça donne des visages absolument atroces. Je ne triche pas souvent, mais parfois un petit peu, je suis obligée de jouer sur des agrandissements. Mais c'est pour vous que je fais ça.
That's my Jewish mother guilt trip.
Voilà, ça c'est la culpabilisation façon mère juive. C'est pour vous que je fais ça.
I suffer for you.
Et donc si je souffre, c'est en votre nom.
Okay, I had to do that. I'm sorry.
J'étais obligée, désolée.
On entend dans ce que vous décrivez, Émile Ferris, que les dessins, chaque page de dessin, vous demande des heures et des heures de travail, d'autant plus que dans ces livres, il y a une très très grande aussi variété de formats, hein, je ne l'ai pas dit, mais on passe parfois de pleine page ou de pleine double page, encore plus dans le deuxième volume de dessin, à un format qui est plus proche de la bande dessinée. On passe de dessins colorés à des choses qui ressemblent plus à des esquisses en noir et blanc. Mais bref, comme vous travaillez avec le stylo Bic, vous l'avez dit, tout ça demande un travail très long et très minutieux. Est-ce que vous vous astreignez à une discipline quotidienne? Est-ce que vous vous obligez à dessiner un certain nombre d'heures par jour, par exemple?
I draw too much and I draw too
je
long
dessine
and
trop, je dessine
make my
trop
eyes
longtemps, je me ruine les yeux.
Flip and I,
je
my
finis par avoir les paupières qui battent et les mains qui tremblent. Et je n'arrive pas à m'arrêter, j'ai pas envie. Si je n'étais pas ici, je serais en train de dessiner 16 heures par jour.
Disappoint people by not coming to their
et si je peux décevoir
parties,
les gens en n'allant pas aux fêtes et rester chez moi à dessiner, c'est ce que je fais.
Because I'd rather be drawing.
Parce que
because
je préfère dessiner. Et j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, donc il faut que je fasse. Je n'ai pas le choix.
I think they kind of forgive me. I hope so.
Donc je crois que les gens chez qui je ne vais pas me pardonnent. Mais j'ai une question à vous poser. Ou en tout cas, aussi une confession à vous faire.
I told somebody I could make a graphic novel.
J'ai dit à quelqu'un que je serais capable de faire un roman graphique.
Person.
C'était quelqu'un de merveilleux.
Gave me some money.
Et cette personne
she
m'a donné de l'argent. Ça a été la première à acheter le livre.
And I completely lied.
Et en fait, j'avais complètement menti.
To me on the phone,
ma fille m'a écouté lui parler au téléphone
said,
et elle a dit
you never made a graphic novel before.
Mais t'as encore jamais fait de roman graphique?
You lied.
T'as menti.
And I said, well, it's a new theory I have.
Et j'ai dit, bah, c'est une nouvelle théorie que j'ai. On peut parler de l'avenir, en fait, depuis l'avenir. En fait, simplement, je m'étais placée du point de vue de l'avenir. Je n'avais pas menti. Dans l'avenir, je serais capable.
She was just so irritated with me.
Et elle était vraiment furieuse.
And it, I did lie. I told
j'avais effectivement menti en disant à cette personne que j'étais capable.
So when you see all kinds of things happening, it's 'cause I'm figuring it
et donc, quand il y a toutes sortes de choses qui
I'm
se
just,
passent dans
we're
le livre, c'est simplement parce que j'essaie de comprendre comment ça marche. Des fois, tout ne va pas de façon linéaire. Des fois, j'apprends, je suis Karen. Parfois, je fais une page et je me dis, tiens, si je le fais de cette façon-là, en fait, c'est pas si bon, alors je vais la refaire autrement. Et c'est comme ça qu'on apprend. J'ai envie de demander au public qui est devant moi, vous êtes tous incroyables au passage et merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez toujours secrètement voulu faire mais que vous n'avez pas fait? En tout cas, pas encore. Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est votre cas?
Ok, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
à propos de mensonges, Émile Ferris, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont vous avez rencontré votre éditeur? Je le disais tout à l'heure, le premier tome de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Il a été publié alors que vous aviez 50 ans déjà passé. Vous aviez jusque-là rien publié. Et j'ai lu que, avant d'arriver à cette publication, vous aviez essuyé un certain nombre de refus. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'objet que vous avez présenté à votre éditeur, celui qui a finalement choisi de vous publier, c'était un objet fini? Ou est-ce qu'il y a eu aussi des échanges entre vous? Est-ce que ce dialogue-là, il compte aujourd'hui pour vous dans votre travail?
Well, there's somebody in this audience.
Eh bien, il y a quelqu'un dans ce public.
And the reason that the book exists is because of him.
Et c'est grâce à lui. Il y a eu cette personne merveilleuse qui m'a donné de l'argent. J'ai dit, bien sûr, je suis capable de faire un roman graphique. Je vais utiliser des Bic. Ça prendra à peu près un an. Ma fille, encore une fois, m'a dit, mais n'importe quoi. C'est complètement dingue. Ça va te prendre 4 ans. Tu peux pas faire un roman graphique au bic en un an.
Come on, I said. It'll be fine.
Et moi, je dis, mais tout va bien se passer. 4 ans plus tard. Je travaillais sur le livre depuis 4 ans, parce que c'est effectivement le temps que ça a pris. Et j'étais en train de me faire virer de mon appartement. Je n'avais pas d'argent. Alors, je faisais le tour des épiceries où l'on donnait des échantillons gratuits. Et quand ils ne regardaient pas, je récupérais tous les échantillons. J'allais aussi à la banque alimentaire prendre du café et à la banque tout court en fait, où il y avait des cafetières à disposition et moi je venais avec ma cafetière que je remplissais et ils ne pouvaient rien dire, c'était la banque du quartier. Et puis sur Facebook j'ai rencontré cet homme très gentil qui avait un boulot de merde. Il travaillait dans un parking. Mais c'était un artiste brillant. Et c'était quelque chose que nous partagions. Il est venu chez moi, il a vu les livres. Enfin, il a vu le livre qui était à ce moment-là étalé sur tous les murs. Il a regardé, il m'a dit, tu peux pas t'arrêter là. Tu es tellement près d'y arriver. Je vais t'envoyer tous les dollars que je peux me permettre de te donner. Et parfois, c'était vraiment tout ce qu'il avait. Et il m'envoyait ce qu'il avait pour que je puisse manger. Et c'est comme ça que je suis restée en vie. Et que j'ai pu dire à mon propriétaire d'attendre. Quand le livre est sorti, le propriétaire est venu plus tard et il m'a dit, mais si seulement tu m'avais expliqué ce que tu faisais, je t'ai entendu à la radio, je t'aurais laissé rester dans l'appart. Je dis, c'est pas grave. Mais cet homme-là, dans le public, m'a aidé, il a pris toutes mes affaires, il les a mis dans sa voiture de merde et on a trouvé où aller. Et j'ai trouvé un éditeur. Mais il y en a beaucoup qui ont dit non. Ce qui s'est passé, c'est que celle que j'ai fait attendre pendant des années a dit, désolé, j'ai plus envie de publier votre livre. Et je me suis dit, bon, je vais me retrouver à la rue. Ça va être un nouveau chapitre intéressant, mais en tout cas, j'aurai ce livre avec moi. Qu'est-ce que je fais ? Peut-être je peux me mettre dans un café et faire payer les gens $10 pour lire le livre, mon exemplaire, et puis ensuite retourner dormir dans le parc. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment on va faire. Ce serait une stratégie éditoriale intéressante. Et finalement, c'est Fantagraphics qui est venu et qui m'a dit « on va publier ». Et puis ensuite, le livre s'est perdu en mer. Ils ont dit qu'ils pensaient que c'était des pirates qui avaient
Les exemplaires du livre fini ont été bloqués dans un port sur un navire. Histoire rocambolesque en elle-même. Mais finalement, le livre a paru et a rencontré le succès que l'on connaît et qui nous a donné le plaisir de nous entretenir avec vous, Émile Ferris, aujourd'hui. On arrive déjà au terme de cet entretien. Merci infiniment d'avoir accepté de dialoguer avec nous aujourd'hui au public ici au Festival du Livre de Paris.
Oh, where is our howl, right?
C'est vrai, c'est notre hurlement. Yet? Est-ce no. que c'est la pleine lune ou pas encore?
Oh. Are we gonna howl?
C'était la masterclass d'Émile Ferris avec Mathilde Wagman, enregistrée au Festival du Livre de Paris. Traduction, Marguerite Capelle. Coordination, Henri Leblanc. Attaché de production, Corinne Amar. Prise de son, Johanna Gabric et Olivia Branger. Chargée de production, Pascal Bresse. Réalisation, Perry Legras.